Nos ados ont vu tous les Miyazaki, ils rêvent qu'on les emmène au Japon.
Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio.
Incroyable! Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone.
Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé.
Waouh!
Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel.
Oh, je nous y vois déjà.
Avec Marco Vasco, ne rêvez plus, vivez votre voyage l'esprit libre. Au rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.
Figaro Radio.
Le Buzz TV.
Sarah Lecoeuvre et Damien Canivez.
Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous accueillir dans ce nouveau numéro du Buzz TV. Salut Sarah.
Salut Damien.
Allez, aujourd'hui nous recevons sur ce plateau une personnalité politique qui supervise avec beaucoup de patience et d'abnégation des échanges qui s'avèrent parfois très tendus. Bonjour Quentin Bataillon.
Bonjour.
Bienvenue sur le plateau du Buzz TV, c'est un plaisir de vous recevoir ici. Alors vous êtes député Renaissance de la Loire, président de la commission d'enquête à l'Assemblée nationale sur l'attribution, le contenu et le contrôle des autorisations de services de télévision à caractère national sur la TNT. Tout cela est très long, autrement dit c'est vous qui présidez les auditions auxquelles nous avons assisté ces derniers temps, les auditions des dirigeants des chaînes de télévision,
absolument,
des producteurs, des animateurs. Alors avant de revenir sur le fond de ces entretiens, je voudrais que l'on fasse déjà un petit peu de pédagogie pour celles et ceux qui nous regardent. Ça sert à quoi une commission d'enquête ?
Alors une commission d'enquête, déjà, c'est l'objet de ce qu'on appelle le droit de tirage d'un groupe politique. C'est-à-dire que chaque groupe politique, donc moi je fais partie de Renaissance, le rapporteur de la France Insoumise, a le droit à une commission d'enquête par an.
Oui.
Donc la France Insoumise et Aurélien Saint-Toul, qui est le rapporteur, ont fait le choix d'une commission d'enquête sur la télévision, sur la TNT. Et je le rappelle, pour regarder le cadre général. Puisqu'en fait, la TNT, ce sont des chaînes, des fréquences qui appartiennent à l'État, qui
oui,
sont mises à disposition de groupes privés. Et donc, il est normal qu'on demande que ce soit un statut protégé, des chaînes qui aient plus de règles que les autres, puisque nous donnons l'accessibilité de ces chaînes à l'ensemble de nos concitoyens, gratuitement. À partir de ce moment-là, voilà, la France Insoumise souhaitait vérifier si le cadre, les règles actuelles étaient les bonnes ou s'il fallait les faire évoluer. Donc après, nous avons donc 30 membres de l'ensemble des groupes politiques. Le rapporteur devra rédiger le rapport et le président, mon rôle, organise, ordonne un peu les débats de manière à ce qu'il y ait une forme de respect aussi collectif à la fois des auditionnés et des députés.
Et est-ce que vous aurez votre mot à dire sur ce fameux rapport qui sera rédigé par Aurélien Saint-Toul ?
Alors, le rapporteur vraiment aura totalement le contrôle, ouais, de son rapport, je ne lui tiens pas la plume.
Ouais.
J'aurai la possibilité à la fois d'avoir un avant-propos en tant que président, les groupes politiques dont le mien pourront annexer également une décision, et ce rapport fera l'objet d'un vote,
ouais,
un vote le 7 mai prochain.
Un vote le 7 mai prochain, c'est-à-dire que si ce rapport n'est pas adopté, que se passe-t-il ?
On adopte souvent les rapports pour publication,
oui,
mais si son rapport n'est pas adopté, ce ne sera pas le rapport de la commission d'enquête, mais seulement le rapport d'Aurélien Saint-Toul.
Vous pouvez vous désolidariser du rapport ?
Ça peut arriver,
d'accord,
mais pour moi, voilà, c'est difficile. Le rapport n'étant pas encore écrit, je ne veux surtout pas laisser entendre à mon collègue qu'on ne sera pas derrière lui. Mais en tout cas, voilà,
ouais,
je pense que ce qui est important, c'est qu'on aborde vraiment le sujet du cadre. On le voit bien, ouais, notamment par rapport à tous les retours qu'on, ouais, peut avoir sur cette commission d'enquête. Il faut toujours faire attention lorsqu'on veut faire la chasse aux sorcières ou la chasse à une chaîne,
oui,
ou à un groupe particulier. C'est déjà, c'est pas forcément toujours compris par nos concitoyens. Je vois même en venant ici, mon chauffeur de taxi me parlait de ça.
Ah oui.
Et autant, ce qu'il me disait, c'est qu'il n'était pas très fan,
ouais,
de CNews ou de C8. Mais il n'aimait pas vraiment la façon dont on pouvait finalement les montrer du doigt,
oui,
ou en,
oui,
faire
je trouve que vous leur avez fait
des coupables
ou des
victimes.
Ah, oui.
En tout cas, ça fait monter leurs audiences.
C'est vrai que ça a fait monter leurs audiences, oui, effectivement. Et ceux qui peut-être avaient des griefs contre CNews et C8 vont peut-être regarder C8 et CNews, parce qu'ils se sont plutôt bien défendus, en tout cas sur la question du pluralisme, puisqu'ils ont expliqué longuement devant votre commission qu'ils n'étaient pas contre l'idée de recevoir des personnalités de gauche, de droite, etc.
Le pluralisme est effectivement extrêmement important. On voit qu'en plus derrière, très rapidement arrive la question de la liberté d'expression.
Ouais.
Moi, je resterai toujours frappé par une rencontre que j'ai faite en circonscription à Saint-Étienne, d'une dame sur le marché qui vient me dire « Je n'aime pas ces news, mais ce que vous êtes en train de leur faire, c'est très grave.
Ouais. »
Donc, ce qu'avait compris effectivement cette dame, et qui était finalement ressenti d'une partie de notre population, c'est qu'on voulait les empêcher, c'est, mmh, qu'on voulait les censurer. Et que même s'ils n'aimaient pas cette chaîne, pour eux, c'était improbable et impossible que le Parlement ou que le gouvernement fasse ce choix-là. Donc je pense qu'il faut faire très attention. Ce qu'on va rappeler, notamment demain, puisque nous allons auditionner Yann Barthès, Julien Belver et, mmh, l'équipe de Quotidien.
Laurent Bon, producteur aussi.
Effectivement, tout à fait un sujet par rapport au pluralisme, c'est que le pluralisme, c'est l'affaire de tout le monde.
Ouais.
C'est l'affaire de tous des partis politiques, dans un premier temps, et des personnalités politiques qui doivent aller partout. Bien sûr, ce n'est pas toujours facile sur tous les plateaux, par la composition, par la chaîne, etc. Mais je pense que notre rôle, c'est d'aller partout. Et ensuite, c'est le rôle aussi de l'ensemble des plateaux, des journalistes, d'inviter tout le monde. Oui. Et je pense qu'à partir du moment où l'un des deux acteurs ne tient pas totalement son rôle, même s'il est dans le respect de la légalité, puisque oui. Quotidien est totalement dans le respect de la légalité, puisque ce n'est pas effectivement des invités, mais ce qu'on appelle du temps d'intervention, ils passent du magnéto, des bandes, des reportages sur ces partis politiques, de manière à respecter les temps de parole. Donc il n'y a pas de problème de l'illégalité, ils respectent la loi et le cadre de l'ARCOM. Mais ça crée un doute. Ouais. Ça crée un doute dans la population, ça crée un sentiment qui est bizarre. Ça crée
un sentiment d'injustice.
C'est ça, d'injustice ou de victimisation après de certains partis politiques. Et je pense, mais ça c'est mon avis très personnel, que ces partis politiques finalement gagnent plus en n'étant pas invités et en se victimisant qu'en venant parfois sur le plateau et en expliquant le fond de leur projet.
Absolument. Et ici, d'ailleurs, nous recevons aussi tout le monde. Vous voyez, donc bon, on est aussi favorable au pluralisme.
C'est vraiment l'action de tout, je pense, le pluralisme. Et c'est ce que nous rappellerons demain, sans pour autant... ce ne sera pas un tribunal, mais c'est juste, je pense, au contraire, un temps d'échange utile. Peut-être que nous aussi, on a des choses à faire évoluer par rapport aux règles du pluralisme. Et c'est en parlant avec les journalistes, avec les producteurs, qu'on peut comprendre ce qu'on peut améliorer.
Absolument. Ben, on va revenir dans quelques instants sur les auditions que vous avez menées, sur celles à venir. Mais tout de suite, je vous propose de découvrir les news médias présentés aujourd'hui par Sarah Lecoeuvre. Allez, on commence ces infos médias avec un feuilleton digne des plus grandes séries Netflix. Quentin Bataillon, tenez-vous, c'est le clash entre Inès Reg et Natacha Saint-Pierre dans Danse avec les Stars. Je suis sûr que vous en avez au moins entendu parler.
Bien
que se passe-t-il, Sarah? C'est quoi le nouveau rebondissement?
C'était le 31 janvier dernier. J'ai eu peur, a déclaré Natacha Saint-Pierre pour justifier sa main courante déposée à l'encontre d'Inès Reg. Elle raconte que la comique a adressé de violentes insultes à son égard et son danseur Anthony Colette. Et elle dément toutes les accusations de racisme, sous-entendu par sa concurrente de Danse avec les Stars. Alors, il faut rappeler que quelques heures plus tôt, Inès Reg avait révélé que Natacha Saint-Pierre l'avait traitée, je vais la citer, de petite salope devant les caméras. Alors, reste à savoir désormais quel épilogue sera donné à cette histoire, puisque on imagine mal le prime de vendredi se dérouler dans les conditions normales. TF1 et la production n'ont pas encore réagi, donc on attend peut-être l'annonce d'un abandon ou peut-être une réconciliation, mise en scène.
Mise en scène, vous faites bien de le préciser, absolument. Ouais. Quentin Bataillon, est-ce qu'il y a ce genre d'altercation dans les couloirs de l'Assemblée nationale? Ça peut arriver aussi que le ton monte comme ça, en dehors de l'hémicycle, derrière les caméras?
Oui, bien sûr, même si je pense qu'en dehors des caméras, c'est toujours beaucoup plus simple et beaucoup plus sain.
Oui.
Parce qu'il y a effectivement toujours une forme de jeu et de positionnement par rapport aux partis politiques. Donc je pense que l'ambiance est beaucoup plus sympa hors caméra. Ouais. En tout cas, au sein de la commission d'enquête, on s'est débrouillé du début jusqu'à la fin pour que les choses se fassent au mieux malgré les positions.
Même si l'ambiance
politiques.
Peut être un peu tendue parfois.
Parfois un peu tendue, mais
il n'y a pas de règlement de compte à la fin.
Non, j'essaye de faire une petite blague pour relancer la relation et ça se passe bien.
Voilà. Est-ce qu'Aurélien Saint-Toul est sensible à vos blagues d'ailleurs? Parce qu'on se demande s'il a de l'humour, ce garçon. Parfois, pardon de le dire comme ça, mais il a pas beaucoup souri pendant cette commission d'enquête.
On va dire que je ne suis pas là pour juger mon propre humour, donc vous lui poserez la question.
Très bien. Bon, on poursuit ces infos médias avec quelque chose de beaucoup plus triste, malheureusement, les obsèques de Frédéric Mitterrand.
Oui, personnalités politiques, médiatiques, anonymes se sont réunies pour rendre un dernier hommage à l'ancien ministre de la Culture décédé la semaine dernière à l'âge de 76 ans. C'est un lieu de culte qui n'a pas été choisi au hasard puisqu'il s'agit de l'ancien emplacement du jardin de la Reine Margot qui a accueilli les obsèques de la acteur Jean Rochefort. Alors c'était idéal pour cet homme passionné d'histoire et de cinéma.
Quentin Bataillon, vous avez bien connu Frédéric Mitterrand, ancien ministre de la Culture. Quel souvenir garderez-vous de cet homme ?
Je garderai vraiment, j'avais rencontré lors de l'anniversaire du ministère de la Culture qu'on avait fait avec Franck Riester. Et depuis, j'ai toujours gardé une grande amitié, une grande affection pour Frédéric Mitterrand que je voyais régulièrement, tous les mois. Avec toujours une très grande bienveillance, toujours de bons conseils, toujours... être à l'écoute des gens et en même temps toujours une forme de mélancolie par rapport au temps qui passe. Ouais. Et il portait ceci. Et voilà, en tout cas, moi je perds un grand ami et je pense qu'on perd un grand ministre de la Culture puisque ce qu'on avait vécu, nous, au ministère de la Culture, c'est qu'il avait vraiment été le ministre des territoires. En tout cas, c'est l'image qu'on avait gardée, l'ensemble des directeurs régionaux des affaires culturelles ou des maires de tous les élus qu'il avait rencontrés. Et voilà, donc on perd une voix et je pense une grande personnalité.
Le président, Quentin Bataillon, je le rappelle, de cette commission d'enquête sur l'attribution, le contenu et le contrôle des autorisations des services de télévision à caractère national sur la TNT, pardon, c'est un peu long, mais c'est ainsi qu'on parle de cette commission d'enquête. Déjà, la première question que je voulais vous poser, quel premier bilan tirez-vous de toutes ces auditions? Parce qu'il y en a eu beaucoup, il y a eu de Delphine Ernotte à Vincent Bolloré, en passant par Cyril Hanouna, Pascal Pro, Roch-Olivier Maistre, le patron de l'ARCOM, vous avez reçu beaucoup de monde à l'Assemblée nationale. C'est quoi le premier bilan?
Premier bilan, c'est vraiment qu'on a voulu faire le maximum pour que le travail soit plus complet et le plus équilibré, ouais, le plus neutre possible. C'est-à-dire qu'effectivement, on parle beaucoup des auditions des chaînes du groupe Canal+. D'ailleurs, je les avais positionnées à la fin, mais j'avais été conscient de l'émotion que, ouais, tout ceci allait susciter. Mais nous avons vu l'ensemble des chaînes, l'ensemble des éditeurs, et vous l'avez dit également du public, puisque, ouais, la télévision publique est dans cet écosystème de la TNT, ils sont présents à travers plusieurs chaînes. On va même voir les chaînes parlementaires cette semaine pour vous dire à quel point nous allons au bout du travail, même si elles ne sont pas, elles, régulées par l'ARCOM. La première analyse qu'on peut faire, c'est qu'il y a des choses qui sont perfectibles dans le cadre, et c'est ce dont on a pu parler avec le président de l'ARCOM, ouais, Olivier Mestre. Il faut bien qu'on se concentre justement sur ce cadre. Je pense notamment aux chaînes d'information. D'un autre côté, on voit qu'effectivement, c'est un métier qui a évolué. Mmh. Aujourd'hui, lorsqu'on se réveille le matin, ben, on a déjà l'ensemble pratiquement des informations. Mmh. Donc, on n'attend plus
des
chaînes d'information,
hein,
tout à fait, une sorte de robinet d'informations, ouais, parce qu'on les a aisément. Donc, on attend effectivement plus de descriptions, plus d'analyses, de décryptage, de reportages sur le terrain. Donc, comment les conventions peuvent pousser les chaînes à aller plus loin, notamment dans le reportage sur le terrain, ça fera partie des éléments d'avancée que pourront apporter cette commission d'enquête.
Alors, il y a eu des moments forts, hein, dans cette commission d'enquête, et il y en a un qui nous a fait particulièrement rire, c'est celui où Cyril Hanouna vous explique avec beaucoup de subtilité qu'à 16h30, il doit partir, regardez.
Convocation est jusqu'à 16h30, donc on vous retiendra jusqu'à 16h30. C'est pour ça que j'ai vraiment besoin que vous répondiez vraiment très direct. Est-ce que vous avez déjà dit, il n'est pas utile de le redire.
Et je prends mon goûter à 16h30 également. Banidier, j'ai vraiment un accord avec Banidier qui dit que je peux, s'il vous plaît...
Non, alors, mes chers collègues, vous en faites pas. À 16h30, c'est juste la fin de l'audition. Les questions de goûter ne concernent pas vraiment effectivement cette audition, mais tous ces éléments-là font perdre du temps et font perdre juste en fait des orateurs. Donc accélérons, M. Hanouna, allez droit au but.
Alors cette séquence a été très commentée, bien évidemment, sur les réseaux sociaux. À ce moment-là, vous réagissez comment? Vous avez envie de rire, très, très franchement, ou bien vous dites c'est pas le lieu d'une commission, c'est pas le lieu, c'est pas lors d'une commission d'enquête qu'on peut faire ce genre de blague.
Je me dis les deux. Déjà, ouais, je suis humain, donc effectivement, on arrivait après 2h30 d'audition, tout s'était plutôt bien passé. Ouais. Donc cette blague, à la fin, on a, au fond, j'ai envie de rire, mais mon rôle m'en empêche. Et d'autre côté, j'ai mes collègues qui commencent à s'énerver parce que certains y voyaient une forme de manque de respect, etc. Ouais. Et je voulais surtout pas, on va dire, que l'audition déraille, alors que tout s'était bien passé jusque-là. Donc voilà, c'est à la fois rappeler à mes collègues que tout va bien, à 16h30, c'est l'heure de la fin, au-delà d'être l'heure du goûter. Il y a Cyril Hanouna qu'il faut qu'il continue. Et je vais vous livrer une anecdote. La même semaine, en faisant mes courses, des jeunes sont venus me voir pour demander si c'était l'heure du goûter. Et là, je me suis dit que les travaux de l'Assemblée nationale, effectivement, étaient exceptionnellement très regardés par un public très jeune.
Et vous avez vu que les conclusions qu'on en tire sont évidemment très fructueuses. Enfin, voilà, il y a beaucoup d'intelligence là-dedans, quoi.
Oui, voilà. En tout cas, je pense que cette commission, elle est, ouais, très sérieuse. On fait un travail, oui, très sérieux. Mais voilà, il faut à la fois respecter les gens qu'on reçoit, ouais, les accueillir correctement, et on est aussi des humains, et on parle de télévision, donc ouais, c'est pas non plus... on peut réguler de temps en temps.
Bon, et alors, beaucoup de Français, hein, suivent avec appétit ces commissions d'enquête, nous les premiers d'ailleurs. Ouais. Mais impossible de ne pas être choqué quand même par la configuration de ces auditions. Ça peut apparaître parfois comme un procès d'intention à l'égard des auditionnés. Quel est votre avis là-dessus? Quand par exemple Aurélien Saint-Toul attaque Cyril Hanouna sur son salaire, franchement, ce n'était pas l'endroit.
Bien sûr, bon, je ne veux pas dire du mal de mon collègue rapporteur, son travail est important, mais je pense qu'à chaque fois qu'on va trop loin, alors je sais le rappeler de temps en temps, lorsqu'on va trop loin sur le fond ou sur la forme, au final, on n'atteint pas notre objectif. Voilà, ça c'est, je pense, l'une des leçons de cette commission d'enquête. C'est-à-dire que tout ce qui est excessif est insignifiant. Et donc, il faut qu'on fasse attention de ne pas à la fois victimiser ce qu'on reçoit,
parfois,
de les respecter dans un cadre.
Même Caron,
absolument.
Ses interventions.
Et lorsque c'est hors sujet, j'ai aucune peine à couper, ouais, à arrêter, à le redire après, à dire à l'auditionné qu'il n'a pas à répondre. Bah, le but, c'est qu'on vraiment, on se concentre sur le cadre. C'est très important, mais vous avez raison de dire que ceux qui nous regardent ont une attention extrêmement, ouais, forte, justement, à la façon dont on reçoit les gens et à la façon dont on travaille. Moi, je reçois des centaines d'emails à ce sujet-là. Les gens qui, voilà, sont très attentifs à la façon dont je préside, dont je modère, dont, oui, je donne la parole et je respecte l'ensemble des groupes politiques, des auditionnés. Et parfois, je demande aux députés, quels qu'ils soient et quel que soit leur groupe politique d'ailleurs, de respecter le vrai sujet de la commission d'enquête, puisque c'est quand même sérieux.
Vous avez eu ce sentiment-là aussi.
Oui, et d'ailleurs, de quelle marge de manœuvre disposez-vous pour faire des rappels à l'ordre? Parce qu'effectivement, dès lors que les députés s'éloignent du sujet, vous vous permettez ces rappels à l'ordre. Est-ce qu'à partir du moment où un député prend son téléphone, par exemple, ce qui peut s'apparenter quelque part à un manque de respect lorsque la personne répond, est-ce que là, à ce moment-là, vous pouvez aussi faire des rappels à l'ordre?
Alors, sur l'attitude téléphone, non, c'est toujours compliqué, dans les travaux, même moi, parfois, il m'arrive de le regarder, puisque j'ai mes collègues qui me demandent la parole via message. Donc, je leur dis oui, tu passeras dans deux temps,
ah oui,
dans trois députés, quatre députés. Effectivement, donc moi-même, j'en ai besoin.
Mais
effectivement,
si
le ton est irrespectueux, comme on a pu parfois le vivre, notamment avec Rachida Dati la semaine dernière, je pense que c'est important de le rappeler. Et puis, pour une raison toute simple, c'est qu'en fait, sinon, ça déraille. On perd totalement le fil de l'audition. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai donné, on va dire, en priorité, la parole aux députés, de manière à ce qu'il y ait un temps, on va dire, de relâche un petit peu la pression, pour ensuite revenir aux questions du rapporteur. Mais mon objectif, et l'équilibre, il n'est pas facile, c'est à la fois de permettre au rapporteur d'avoir tous les éléments nécessaires pour atteindre, on va dire, le travail optimal, c'est-à-dire la rédaction de son rapport. Moi, je ne veux pas qu'il dise à la fin qu'il n'a pas pu faire son rapport, parce que le président et la majorité présidentielle l'ont bloqué ou l'ont empêché. Ça, c'est vraiment mon objectif. Et cet objectif, je dois le tenir jusqu'au 28 mars, donc c'est-à-dire ce jeudi, la fin des auditions. Et que chaque parti politique puisse retrouver sa place, son temps de parole, sa présence, ses questions, son positionnement.
Est-ce que, aussi, je vais vous poser cette question très clairement, parce qu'il y a un enseignement aussi qui ressort de cette commission d'enquête, c'est que le rapporteur Aurélien Saint-Toul déteste le groupe Canal+. Il déteste tous les médias qui appartiennent au groupe Bolloré. Il ne s'en cache pas, d'ailleurs. Il suffit de regarder son fil Twitter pour s'en rendre compte. Est-ce que cette partialité affichée et assumée, elle est souhaitable pour cette commission d'enquête ?
Et moi, en tout cas, j'ai fait le choix de la neutralité.
Oui.
Jusqu'à ce jeudi, je ne suis allé sur aucune chaîne de la TNT régulée par l'ARCOM, justement dans ce souci de neutralité. Et j'y tiens. Bon, après, je n'ai pas jugé la neutralité du rapporteur. En tout cas, ce qu'on attend de son rapport, c'est effectivement qu'il parle du cadre et non pas forcément d'une chaîne, d'un animateur, d'un journaliste. Je rappelle que cette commission n'est pas une chasse aux sorcières. Et si, effectivement, c'est le chemin qu'elle prend, ce sera jugé, je pense, de manière très dure par nos concitoyens.
Mais même, parlons de Sophie Taillé-Polian, elle est intervenue, c'est une députée de la NUPES, elle a lancé une pétition contre le renouvellement des fréquences de CNews et C8, là on peut se dire aussi que ça y est, elle est partie prise et son avis est tranché.
Son avis est tranché, alors Sophie Taillé-Polian, pour le coup c'est vraiment une députée qui est vraiment experte des sujets médias, donc j'ai beaucoup de respect pour elle. Sur effectivement la question de la pétition, je suis un peu plus troublé, parce que des parlementaires qui lancent une action, une pétition pour influencer une autorité indépendante, ça pose problème, ça pose un problème de séparation des pouvoirs, et je pense que c'est très dangereux. Parce qu'in fine, quel message on envoie à nos concitoyens ? C'est que l'ARCOM, cette police de l'audiovisuel, n'est pas indépendante.
Bien sûr.
Si nous, députés, par une commission d'enquête, on peut influencer leur choix de renouvellement, alors influencer, on va dire, le cadre, oui, c'est notre rôle, parce que c'est aussi le cadre de la loi, mais influencer un renouvellement ou influencer, on va dire, le fait de sortir une chaîne, ça démontre bien à ce moment-là qu'elle n'est pas indépendante. Donc là, on fait le jeu des extrêmes. Donc je pense que c'est très dangereux, il faut faire très attention, il faut qu'on reste dans notre rôle. Notre rôle, c'est le cadre. Donc soit il est bon, soit il n'est pas bon. S'il n'est pas bon, on le fait évoluer. Mais ce n'est pas à nous de dire quelle chaîne doit être demain sur la télévision.
Vous l'avez rappelé tout à l'heure, Quentin Bataillon, vous allez auditionner Yann Barthès, son producteur Laurent Bon, le journaliste Julien Belver, ainsi que deux dirigeants du groupe TF1. Ce sera à 9h. Quelle question avez-vous l'intention de poser à Yann Barthès ?
Alors, moi, je vais rappeler, et c'est un sentiment très personnel, que le pluralisme, c'est l'affaire de tous, comme j'ai pu vous le dire tout à l'heure, à la fois, bien sûr, de l'ARCOM qui contrôle tout ceci. Rappeler, bien sûr, c'était une demande, je pense, forte pour aller au bout de l'exercice sur le sujet du pluralisme, que TF1 respecte totalement le cas du pluralisme, les temps de parole, temps d'intervention, il n'y a pas de sujet là-dessus. Le sujet, c'est effectivement comment on choisit entre à la fois passer du magnéto, se dire des images de plateaux, des images de reportages et des invités. Je pense que lorsque les partis politiques ne vont pas partout, quand même on l'a vu notamment pour le Parti Socialiste qui refuse d'aller au débat de CNews, je pense que c'est une erreur grave et c'est une erreur démocratique que fait ce parti à ce moment-là. Même si je comprends que certains plateaux sont parfois, nous paraissent moins favorables, mais c'est aussi le risque. Et d'ailleurs, c'est déloyal vis-à-vis des autres partis. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que le Parti Socialiste, on va mettre des images d'un meeting, des images très propres, où tout va bien, où ils contrôlent tout, et puis les autres, ils vont devoir s'affronter sur un plateau et confronter leurs idées.
Et prendre des risques.
Et prendre des risques, parce que c'est quand même aussi l'enjeu. Donc je pense que ce n'est pas loyal. Et ensuite, c'est aussi le rôle de l'ensemble, je pense, des chaînes, à partir du moment où ce type de programme veut aller sur de l'information. On est sur de l'infotainment. C'est-à-dire qu'on n'est pas, pas sur une chaîne dite d'information, on n'est pas vraiment sur des programmes dits politiques, mais pour autant, c'est eux qui font le choix à un moment d'aller sur du politique. Mais lorsqu'on fait du choix d'aller sur le politique, il faut aller au bout du chemin, et je pense qu'il faut inviter tout le monde, parce que regardez ce qui en ressort aujourd'hui. On a un Rassemblement national qui se victimise, qui dit que c'est le seul qu'on ne reçoit pas, que ce n'est pas normal, que la chaîne est contre eux. Donc voilà, je pense qu'il faut aller au bout des choses, déjà pour rappeler que TF1 respecte ses engagements et respecte les règles du pluralisme, mais deux, moi je vais leur faire passer un message assez amical pour leur dire qu'il faut faire attention, parce qu'au final, je pense que si leur rôle, déjà un, leur rôle n'est pas de faire du anti-RN, en tout cas ce n'est pas ce qu'on attend des chaînes de la TNT, de faire de l'anti-un parti politique en question, et que deux, au final, je pense qu'ils les aident plus qu'autre chose en faisant ça.
C'est ce que vous allez leur dire
C'est ce que je vais essayer de faire comprendre.
Donc ça vous choque, vous, qui refusent de recevoir des membres du parti du Rassemblement National?
Je pense que ce n'est pas leur rôle de faire ceci, et je pense qu'au final, ils ne servent pas la cause qu'ils pensent louable.
Voilà. Alors, il y a une question aussi qui se pose. Pourquoi avez-vous décidé d'inviter Julien Bellevert? Alors, on adore Julien Bellevert, hein, un confrère journaliste média. Simplement, Julien Bellevert est journaliste dans l'émission Quotidien. Il n'a pas de rôle de dirigeant au sein du groupe TF1. Et en l'occurrence, vous n'avez pas invité Elisabeth Lévy avec Pascal Praud lorsqu'il est venu à l'Assemblée nationale, par exemple. Pourquoi Julien Bellevert?
Non, mais on a invité Pascal Praud, Sonia Mabrouk et Laurence Ferrari. Du début à la fin, je veux qu'on aille au bout vraiment du travail. C'est-à-dire que quand on a vu CNews, c'était bien d'avoir le directeur de la chaîne, le directeur de l'information.
Ouais.
Sauf que ceux, et vous le savez ici, ceux qui font les plateaux sont les rédacteurs-chefs, ce sont les journalistes. Donc c'était vraiment un exercice unique de pouvoir inviter ces trois journalistes. Là, Julien Bellevert, parce que finalement, la polémique vient des propos qu'il a pu tenir sur Sud Radio,
oui.
Où il dit que voilà, c'est une chaîne privée, qu'ils font ce qu'ils veulent, que s'ils ne veulent pas recevoir le RN, ils ne reçoivent pas le RN. À l'époque, j'avais tweeté sur le sujet voilà, pour rappeler que, certes, ils reçoivent ou ils ne reçoivent pas, mmh. Et pour autant, il y a bien un temps d'intervention, c'est-à-dire un temps d'image du RN proportionnel à leur poids, comme l'ARCOM le demande, il n'y a pas de sujet par rapport à ça. Mais je pense que voilà, c'était important qu'ils viennent s'expliquer sur ces propos, qu'ils reviennent sur le cadre. Et je pense qu'il n'y a rien de pire qu'une commission d'enquête qui parle en permanence de certaines personnalités sans jamais leur donner la possibilité aussi de se défendre.
Ouais.
C'était aussi le cas pour Vincent Bolloré. Vincent Bolloré, on parle en permanence de lui. On lui fait tenir énormément de propos. Je ne sais pas s'il les a tous tenus. Mais en tout cas, il était intéressant qu'on puisse lui donner aussi la parole à lui-même pour qu'il ait ses propres propos et ses propres dires. Donc en tout cas, c'est le choix de cette commission d'enquête. On ne fait pas parler les gens. On leur propose de venir pour s'expliquer.
Alors en février dernier, le Conseil d'État a ordonné à l'ARCOM de mieux comptabiliser le pluralisme sur CNews. Alors le gendarme de l'audiovisuel a ensuite pris acte de cette décision et s'est dit prêt à prendre en compte les interventions de l'ensemble des animateurs, des participants au programme diffusé, y compris d'ailleurs les chroniqueurs. Est-ce que c'est souhaitable, selon vous, que des journalistes soient quelque part fichés en fonction de leur position politique?
Alors ça, on en a beaucoup parlé.
Surtout.
Ah, on oui. a beaucoup parlé, et moi, on m'en a beaucoup parlé en sa conception, comme j'ai pu vous en parler tout à l'heure, avec l'exemple de cette dame sur le marché. Il faut faire très, très, très attention. Les Français, et tant mieux, dès qu'on parle de liberté d'expression, sont piqués vifs et font très attention. C'est plutôt un bon signe démocratique. Oui. Donc il ne faut pas qu'il y ait de censure, il ne faut pas qu'il y ait de catalogage. Sur ce point, on a reçu à nouveau Reporters sans frontières qui ont redit qu'on ne va pas sur du catalogage, que ce n'est pas ce qu'ils demandent. L'ARCOM, eux-mêmes, ce gendarme de l'audiovisuel, ont redit que ce n'était pas le sens. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Un, plus de personnalités sont prises en compte au titre des partis politiques. Je pense notamment Roselyne Bachelot et Philippe Devilliers. Deux, l'ARCOM va faire un petit peu plus attention sur des débats. Je pense qu'on va avoir un débat cas d'école, celui de la fin de vie.
Ouais.
Le sujet de la fin de vie, je pense que ça nous touche personnellement, et d'ailleurs, ce n'est pas forcément des positions de partis politiques ou de groupes politiques, ce sont plusieurs opinions ou plusieurs sensibilités. Et donc, on va regarder sur ce débat-là, sur l'ensemble des chaînes d'information, et vraiment pas CNews spécifiquement, l'ensemble des chaînes d'information, autant qu'LCIQ, BFM, etc., comment ils traitent ce sujet, comment toutes les opinions sont présentes sur le plateau, on va dire, de manière équilibrée, équitable. Donc c'est ça, on va dire, ce sur quoi l'ARCOM va faire un petit peu plus attention dans
la présence
des opinions.
Mais c'est très compliqué parce que vous savez bien que tout le monde n'est pas pour, tout le monde n'est pas contre, il n'y a pas de vision forcément binaire sur cette question-là.
Qu'est-ce que vous faites avec Robert Ménard, qui a appartenu au Rassemblement National, qui n'y est plus, qui est même rejeté par le Rassemblement National? Vous le classez où, Robert Ménard?
Alors, ce n'est pas moi qui le classe, c'est l'ARCOM.
Non, mais
et je pense que
si
c'est important
vous étiez à la place de l'ARCOM.
Il me semble que l'ARCOM le classe divers droite. Donc voilà, on va dire c'est ce champ. Vous savez, juste pour rappeler, les temps de parole, c'est 3/3.
Ouais.
C'est tiers exécutif, donc le gouvernement, tiers majorité et tiers opposition. Donc effectivement, c'est de savoir où l'ARCOM place Robert Ménard dans ce tiers opposition. Mais effectivement, c'est très compliqué, c'est très difficile. On voit que la limite, elle est fragile. En tout cas, cataloguer les journalistes ou les intervenants, ça, jamais. Les choses sont très claires. Pour autant, il faut qu'on fasse très attention pour bien expliquer aux gens qui est sur le plateau, s'il est éditorialiste, s'il est journaliste, s'il est payé, il n'est pas payé. Je pense que parfois, il y a une forme de flou sur lequel il faut revenir. Et là, d'ailleurs, on avait pu voir ce sujet, notamment aussi avec BFM TV, donc c'est très important.
Et CNews
aussi. Il faut effectivement éclairer nos concitoyens, mais jamais les infantiliser. Et ensuite, il ne faut pas prendre, je pense, les gens pour des idiots. Lorsqu'ils mettent une chaîne, ils savent à quoi s'attendre, ils savent ce qu'ils regardent, et ils ont aussi la possibilité de changer de chaîne d'eux-mêmes.
Exactement.
Donc, il faut arrêter de vouloir rentrer dans les foyers des gens pour dire ce qui est bien, ce qui est mal en permanence. Donc, on est là pour éclairer, mais pas infantiliser.
On arrive déjà au terme de cette interview. Il y a une dizaine de jours, Le Figaro a révélé que le milliardaire franco-libanais Rodolphe Saadé avait signé une promesse d'achat en vue de l'acquisition de 100% du capital d'Altice Media. C'est le groupe qui chapeaute, on rappelle, RMC, BFM TV, BFM Business, etc. Vous allez l'auditionner?
aussi. Absolument.
Voilà.
C'est une audition qui aura lieu exceptionnellement à huis clos. Pourquoi ? Parce que c'est une promesse de vente.
Ouais.
Ils n'ont pas le contrôle actuellement de la chaîne, c'est-à-dire qu'il y a le secret des affaires, le secret de tout ce qu'ils font actuellement avec l'ARCOM et l'autorité de la concurrence. Donc si on veut que l'audition elle soit utile, elle sera à huis clos, mais c'est effectivement important qu'il nous explique son projet, qu'il nous explique aussi sa vision de son rôle
oui.
et de l'indépendance, on va dire, de ses rédactions dans l'ensemble des médias qu'il détient.
Rodolphe Saadé, qui est effectivement à la tête du journal La Provence, dont le directeur de la publication a été mis à pied aussi à la suite d'une une sur la visite d'Emmanuel Macron, qui a été jugée ambiguë. Une grève a été votée, finalement, il a été réintégré, ce directeur. Est-ce que vous craignez pour l'indépendance des journalistes de BFM TV ?
Écoutez, en tout cas, c'est ce qu'ils vont devoir nous rappeler demain. Je rappelle que La Provence avait pourtant été exemplaire avec le choix d'un système de motion de défense, ouais. etc. Donc je pense que nous appelons chaque organe de presse à trouver son organe démocratique interne, mais ce n'est pas aux députés d'aller expliquer ce qui est le bon et le mauvais journalisme. Et ça, je pense que c'est très important, sinon c'est aussi la limite de la démocratie, de la liberté de la presse.
Eh bien, merci beaucoup, Quentin Bataillon, d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes député de la Loire, député Renaissance et président de la commission d'enquête sur l'attribution, le contenu et le contrôle des autorisations de services de télévision à caractère national sur la TNT. Merci beaucoup d'avoir été notre invité.
Merci.
Merci Sarah Lecoeur. On se retrouve dès demain avec un nouvel invité, ce sera Darius Rochebain. Bonne soirée à toutes et à tous.
Nos ados ont vu tous les Miyazaki, ils rêvent qu'on les emmène au Japon.
Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio.
Incroyable, mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone.
Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé.
Waouh !
Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel.
Oh, je nous y vois déjà.
Avec Marco Vasco, ne rêvez plus, vivez votre voyage l'esprit libre. Au rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.